Alors, la thématique que j'ai choisi de vous traiter, vie privée des gouvernants et exemplarité, elle peut paraître étonnante parce que l'exemplarité, on en a parlé beaucoup ce matin et ça relève plutôt de l'exercice de la fonction politique et ça ne relève pas du droit privé. Pourtant, la réalité, tous les jours nous rappelle que les gouvernants sont souvent amenés à répondre de leur vie privée. On sait que récemment, notre collègue et néanmoins ministre, Jean-Michel Blanquer, a dû s'expliquer de son choix de vacances studieuses dans la gestion des protocoles sanitaires à l'école. Bon, cette thématique, la vie privée des gouvernants et exemplarité, m'a amené à réfléchir sur ces deux notions. Alors, l'exemplarité, elle a été définie déjà à plusieurs reprises et je reprends tout à fait les définitions données par Éric Buge. La vie privée ne l'a pas encore été et ça devrait être mon rôle que de vous donner une définition. Alors, Jean Rivero disait qu'il y avait des notions qui sentent la poudre, c'est le cas de la laïcité pour lui. Pour moi, la vie privée, ça sent la migraine. C'est une notion qui donne la migraine parce qu'elle est extrêmement complexe à saisir. Elle est complexe d'abord parce qu'elle est voisine de certaines notions, le quotidien, le particulier, le personnel, l'ordinaire. L'intimité, la famille, ce sont des notions voisines qu'on peut avoir parfois du mal à définir. Elle est également difficile à saisir parce qu'il y a, je crois, en droit français, un tropisme civiliste sur la vie privée. On l'appréhende telle que, on la présente en droit civil comme un droit à être laissé tranquille, un droit à la tranquillité. Et on utilise souvent la métaphore du mur de la vie privée pour définir cette notion. Et je crois que cette vision française, il faut avoir conscience qu'elle est à la fois réductrice et caricaturale. Elle est réductrice parce que si on regarde ce qui se fait à l'étranger, notamment dans la culture anglo-saxonne, la vie privée, c'est pas seulement le droit à être laissé tranquille, c'est le droit de choisir sa vie privée, c'est le droit de faire des choix personnels. Et elle est caricaturale parce qu'elle suppose l'idée qu'on peut compartimenter véritablement ce qui relève du privé et du public. Et je crois que l'exemplarité va nous montrer que c'est impossible. Alors, lorsqu'on a du mal à réfléchir à une notion, c'est parce que la notion est complexe ou bien que l'orateur n'a pas fait d'effort suffisamment, et peut-être que c'est la deuxième explication. Alors, on pourrait se demander si la difficulté pour un constitutionnaliste de travailler sur la vie privée, c'est qu'en principe, ce droit, le droit constitutionnel, et la pensée politique qui l'irrigue ont chassé la vie privée de la matière politique et constitutionnelle. Le droit constitutionnel moderne, c'est bien connu, s'est construit avec l'institutionnalisation progressive des fonctions politiques. On a dissocié les affaires publiques des affaires privées des gouvernants. Et cette dissociation, elle s'est nourrie à partir de la révolution de la doctrine du libéralisme politique, où on a séparé la morale qui relevait du privé et la politique qui relevait de l'espace public. Donc, de nos jours, lorsqu'on parle à nos étudiants, lorsqu'on leur présente ces thématiques, on leur explique que si le gouvernement, en tant qu'homme public, peut avoir des comptes à rendre de sa politique, de la conduite de sa politique, en revanche, il n'a pas de compte à rendre de sa vie privée, de ses choix personnels, de son intimité ou encore de sa famille. Donc le privé est chassé du droit constitutionnel. Mais depuis plusieurs décennies, le privé, la vie privée revient dans le champ du droit constitutionnel. Alors, c'est en partie lié à l'exemplarité, mais je pense que c'est beaucoup plus large, puisque on est là dans un mouvement très vaste de brouillage des frontières entre le public et le privé, avec la publicisation du privé et la privatisation du public. Et je pense que l'exemplarité, les politiques publiques d'exemplarité sont l'une des manifestations de ces brouillages entre public et privé. Et c'est de ces brouillages que j'aimerais vous parler dans cette communication. J'aimerais m'intéresser aux façons dont ce qu'on a appelé la révolution déontologique, qui est apparue en France à la fin des années 80, mais surtout après le cataclysme de l'affaire Cahuzac, comment cette révolution déontologique va contribuer à brouiller les frontières entre public et privé, et plus directement, comment l'exemplarité va avoir un impact sur la vie privée des gouvernants. Alors, je pense qu'il y a deux manifestations qu'on peut déceler. Ça tombe bien parce que les juristes aiment bien les plans en deux parties. La première manifestation qui est assez évidente, c'est que les politiques d'exemplarité, à travers la figure de la transparence de la vie publique, contribuent à dévoiler des éléments de la vie privée des gouvernants. La deuxième manifestation, qui elle est plus insidieuse, c'est que les politiques publiques d'exemplarité, loin de se contenter de se focaliser sur la vie publique, ont en réalité une influence sur la vie privée des gouvernants. Et cette moralisation de la vie publique qu'on observe, eh bien, elle a tendance à déborder sur la vie privée des gouvernants. Donc, ce sont ces deux manifestations que j'aimerais étudier, tout en essayant de les relativiser, de mesurer leur portée dans le phénomène général de brouillage des frontières entre public et privé, parce que je ne suis pas certain que ça soit le droit qui contribue le plus au brouillage de ces frontières. C'est probablement la politique et les pratiques, notamment des journalistes. Donc, j'étudierai successivement les liens entre l'exemplarité et la divulgation de la vie privée des gouvernants, et dans un second temps, les liens entre l'exemplarité et la moralisation de la vie privée des gouvernants. Alors, exemplarité et divulgation de la vie privée des gouvernants. Donc, lorsqu'on parle de transparence, il est coutume, c'est devenu presque un rite de passage, de citer un article de Guy Carcassonne publié en 2001 à la revue Pouvoir, où l'éminent auteur critique très fortement la transparence qu'il juge névrotique. Alors, Guy Carcassonne n'a pas connu les lois d'octobre 2013. On peut penser que sa critique aurait été plus forte encore. Et on lit beaucoup dans la littérature juridique sur la transparence, sur la déontologie, ce caractère très attentatoire au droit à la vie privée que constitueraient les lois Cahuzac telles qu'elles ont été modifiées par la suite. Alors, j'aimerais là relativiser un peu ce jugement très dur de la doctrine sur ces lois, en vous montrant que la publicité organisée par les lois Cahuzac, elle est en réalité beaucoup moins intrusive que l'action de la presse protégée par la liberté d'expression. Alors, quels sont les éléments qui sont diffusés au titre de la législation de 2013? Ça a déjà été abordé, je reviendrai rapidement dessus. Deux types de déclarations. La déclaration de patrimoine, qui est une photographie au moment où le déclarant fait sa déclaration de tout ce qu'il possède et qui vise à permettre aux autorités compétentes d'enquêter sur l'enrichissement irrégulier des déclarants. Donc, on va être informé des biens immobiliers, de certains biens mobiliers, des assurances vie, des comptes bancaires, des éventuels véhicules terrestres à moteur des déclarants, etc., etc. Donc, parmi toutes ces déclarations, parmi toutes ces informations, aucune n'est relative à l'intimité de la personne. Aucune donnée de santé, par exemple, ne figure. Il y a bien certes l'obligation de déclarer les activités du conjoint ou de la conjointe du déclarant, mais ces informations, lorsqu'elles sont publiées, sont anonymisées, donc on ne peut pas savoir qui est la personne, on ne peut même pas savoir en principe son sexe. En revanche, il est sûr que si cette rubrique n'est pas remplie, on pourra en déduire que le déclarant n'a ni conjoint, ni époux, ni concubin. C'est l'atteinte la plus forte, entre guillemets, à l'intimité. C'est pareil pour la déclaration d'intérêt et d'activité. Ce sont des activités professionnelles, relationnelles. L'objectif, c'est de lutter, ou plutôt de prévenir les conflits d'intérêts du déclarant. Il n'y a pas d'informations liées à l'intimité de la personne. Donc finalement, je pense que si le dispositif de 2013 émeut beaucoup, notamment la classe politique, c'est pas tant par les informations qui sont divulguées que par la publicité qui leur est donnée. Vous le savez probablement, si les déclarations de patrimoine sont, à l'exception de celles des ministres, des membres du collège de la haute autorité, des candidats à la présidence de la République et des parlementaires rendus publics, les autres ne le sont pas. En revanche, les déclarations d'intérêt et d'activité sont rendues très, très largement publiques sur Internet. On peut aller sur le site de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie publique pour les consulter. Donc, ce qui, je crois, est jugé choquant par beaucoup de commentateurs, cette très large publicité qui est donnée aux déclarations. Alors, certains débattent de l'opportunité. Est-ce qu'il est utile, est-ce qu'il est pertinent de permettre à la population de savoir que, par exemple, notre ministre, Madame Vidal, a déclaré avoir une Mercedes-Benz pour une valeur de 13 500 euros? Est-ce que c'est utile pour les citoyens? Alors, on peut en débattre, mais je pense que, il faut pas oublier, derrière cette idée de publicité de la transparence, que c'est le seul élément démocratique dans les politiques d'exemplarité telles qu'elles ont été mises en place depuis 2013. Autrement dit, c'est le seul élément dans lequel la population est associée. Toutes les autres règles d'exemplarité qui ont pu être citées sont des règles qui font intervenir des autorités administratives ou la justice, mais pas le citoyen. Donc cette publicité, à mon avis, elle est précieuse. C'est ce qui permet de la rattacher, en tout cas de lui donner une coloration démocratique. Quoi qu'il en soit, et j'insiste beaucoup là-dessus, dans ces déclarations, on n'aura aucun élément sur l'intimité des gouvernants ou sur des informations sensibles, telles qu'elles peuvent être définies par les lois sur les traitements informatisés de données. Et si on compare cette publicité limitée à celle opérée par la presse, au nom de la liberté d'expression, on se rend compte que la presse a une liberté beaucoup plus grande et va dévoiler des informations personnelles beaucoup plus sensibles. Alors, c'est évidemment sous l'angle des rapports entre l'article 8 et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme que s'est posée cette question devant la Cour, mais aussi devant les juridictions françaises, en particulier les juridictions judiciaires qui sont chargées de procéder à ce contrôle. Alors, je parle sous le contrôle du professeur Waxman, qui est bien plus compétent que moi sur l'interprétation de ces stipulations. Mais la tendance générale de la jurisprudence de la Cour, et vous me corrigerez si je me trompe, c'est, comme l'a d'ailleurs dit Éric Buge, de donner une plus grande marge de manœuvre aux médias lorsqu'il s'agit de dévoiler des informations personnelles intéressantes des personnages publics, que ce soit des vedettes ou des hommes et femmes politiques. Et l'un des paramètres qui est pris en compte par la Cour, c'est la notion de débat d'intérêt général. Il faut que le dévoilement d'informations privées, pour être jugé comme une manifestation légitime de la liberté d'expression, et donc puisse être protégé par la Convention, il faut que ça puisse contribuer à un débat d'intérêt général. Et la Cour a été amenée à juger, dans une affaire qui concernait la France en 2004, que par exemple la publication d'informations portant sur l'état de santé d'un chef de l'État, qui était susceptible d'informer sur son aptitude à exercer, eh bien, la publication de ces informations relevait d'un débat d'intérêt général. Et donc, dans l'affaire qui opposait l'État français et l'éditeur d'un ouvrage publié quelques jours, je crois, ou quelques semaines après le décès de François Mitterrand et qui révélait ce que certains avaient appelé un mensonge d'État, eh bien dans cette affaire, alors qui est plus complexe, hein, je schématise, mais en définitive, la balance a penché plutôt en faveur de la liberté d'expression. Plus récemment, la Cour de cassation a jugé en 2015, dans une décision du 9 avril 2015, que une cour d'appel avait pu légitimement considérer que le fait pour l'auteur d'un ouvrage sur le Front national d'avoir révélé que deux des cadres du parti avaient entretenu une relation homosexuelle, ce dévoilement qui concerne l'intimité des deux intéressés était protégé par la Convention, puisqu'elle intervenait dans le cadre d'une évolution de la position du parti sur l'homosexualité et plus généralement dans le cadre du débat sur le mariage pour tous. Bon, ces questions, hein, les questions de santé, les questions d'orientation sexuelle, elles ont été légitimées par l'article 10 de la CEDH et on est très loin des informations qui sont divulguées au nom des exigences de la loi Cahuzac. Alors on pourrait essayer de formuler beaucoup d'explications Et l'une des explications, et c'est regrettable que Éric Philippot ne soit pas là, tient au fait que ces lois de 2013, elles ont été adoptées par ceux qui vont y être soumis. Donc on peut se demander si les politiques, les députés, les sénateurs ont adopté une législation si contraignante que ça en ce qui les concerne. Souvent, la contrainte est plus forte lorsqu'elle est imposée de l'extérieur. C'est un petit peu, je crois, ce qu'on peut observer en ce qui concerne le deuxième temps de ma démonstration sur les liens entre exemplarité et moralisation de la vie privée des gouvernants. Alors là encore, je l'évoquais en introduction, de prime abord, l'exemplarité, elle ne concerne pas la vie privée. L'idée peut paraître détonnante. Mais je pense que le droit contemporain de l'exemplarité ne se contente pas de dévoiler des éléments de la vie privée, il contribue aussi à formater la vie privée des gouvernants. C'est ce que je veux exprimer quand je dis que la moralisation de la vie publique déborde sur la vie privée des gouvernants. Ça signifie très concrètement que les valeurs qui sont invoquées, impartialité, probité, même indépendance, ont des répercussions sur les choix de vie des gouvernants. Il y a donc une moralisation indirecte de leur vie privée, et comme pour le premier temps de ma démonstration, on ne doit pas exagérer cette moralisation opérée par le droit par rapport à une morale sociale, elle, qui est bien plus forte, et j'en finirai par là. Donc la moralisation indirecte de la vie privée. Alors, là encore, hein, a priori, l'exemplarité contemporaine, elle est assez indifférente à l'idée que les gouvernants devraient avoir des vertus ou qu'on devrait chasser leurs vices. Alors, il n'en a pas été toujours le cas et ça a été abordé ce matin. On a parlé de Cicéron, on a parlé de Plutarque. Donc moi, je vous parlerai un peu de Tite-Live, qui a dans son ouvrage célèbre décrit un épisode très particulier, légendaire hein, de la vie de la Rome antique, le viol de Lucrèce, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc le viol de Lucrèce, qui était Lucrèce était une femme de la noblesse romaine qui aurait été violée par le fils du roi Tarquin le Superbe. Qui régnait à l'époque, et la révolution patricienne, donc la révolution de la noblesse romaine, est expliquée par ce phénomène privé. C'est le viol et surtout le comportement du roi, qui est l'expression du népotisme familial, qui a été jugé comme la cause de la chute de la royauté et de l'instauration de la République vers 509 avant Jésus-Christ. Donc on retrouve cette idée dans toute une littérature. Donc la littérature des Miroirs du Prince au Moyen Âge, chez Rousseau aussi, alors pas dans le Contrat social, hein, dans l'Émile, vous avez cette idée que le gouvernant eh bien, doit se fonder sur des vertus. Et sous la Troisième République, un auteur et politique comme Jules Barni a aussi beaucoup écrit en ce sens. Dans le droit constitutionnel, en revanche, on a moins vu ce lien fait entre les vertus et le droit. Alors, en observant le laboratoire que sont les constitutions françaises, les vertus privées sont assez peu invoquées, si ce n'est, dans mon souvenir, à l'article 4 de la Déclaration des devoirs de l'an III, où, selon cette phrase, hein, nul n'est bon citoyen s'il n'est bon père, enfin bon fils, pardon, bon père, bon frère, bon ami, bon époux. Donc là, on fait appel aux vertus privées, mais ça ne concerne pas les gouvernants, ça concernait les citoyens en général. Et si on étudie les serments politiques tels qu'ils ont été prévus par les différentes constitutions françaises, aucun serment ne fait référence à des vertus privées, on est dans des vertus publiques. Alors dans le droit contemporain, l'exemplarité, on voit assez peu ce lien, a priori, entre la morale privée et l'exercice des fonctions. Il y a un cas qui est particulier, qui peut paraître technique, mais qui, à mon sens, est essentiel, c'est celui des inéligibilités prononcées par le juge pénal. Et lorsque ça existait, par le juge civil en cas de faillite. Pendant très longtemps, la faillite était une cause d'inéligibilité. Donc là, on a bien, alors, tout en ayant conscience que l'inéligibilité prononcée par le juge pénal n'est pas forcément liée à des infractions, on va dire, politiques. Ça peut être des infractions liées à des comportements personnels. Et ces inéligibilités sont bien le signe qu'un comportement jugé moralement déviant doit être un obstacle à l'entrée dans des fonctions politiques éminentes. Ce débat, il est ancien, il a été reposé sous le quinquennat actuel, où on a à un moment beaucoup disserté sur ce qu'on appelle la virginité pénale des gouvernants. Alors, par chance, le macronisme nous a donné beaucoup de cas pratiques sur cette question. En tout cas, la question a été discutée à un moment de prévoir l'obligation d'un casier judiciaire vierge pour exercer des fonctions politiques. Si ça avait été admis, on aurait été vraiment dans cette idée que la morale privée peut avoir un impact sur les fonctions politiques. Le substitut qui a été adopté, donc la peine obligatoire d'inéligibilité pour certaines infractions, si vous regardez bien cette peine, là encore, elle vaut pour des infractions qui ne sont pas liées forcément à la corruption, au détournement de fonds. Des personnes condamnées pour agression physique peuvent faire l'objet de cette peine, en principe, font l'objet de cette peine obligatoire, sauf si le juge décide de motiver autrement. Alors, à part le cas très précis de l'inéligibilité, on n'a pas un lien très net fait dans le droit, les politiques publiques de l'exemplarité entre les vertus privées et l'exercice de la fonction. Parce que indépendance, probité, désintéressement, c'est la fonction, mais pas le personnel. Mais à mon sens, dès qu'on regarde en détail les règles d'exemplarité, pour reprendre la formule d'Éric Buge, on ne peut pas échapper à l'idée que ces règles, elles vont avoir une influence sur la vie privée. Alors, les règles d'incompatibilité, par exemple, qui visent à renforcer l'indépendance des élus, elles ont un choix sur la vie privée des gouvernants, puisque elles peuvent entraîner l'interdiction d'exercer des activités professionnelles. Et les activités professionnelles, on peut tout à fait considérer qu'elles font partie de la vie privée. En tout cas, c'est le cas lorsqu'on considère que les dévoiler au public serait une atteinte à la vie privée. Plus récemment, alors une règle qui est ambiguë, je vous l'accorde, c'est la règle qui a été adoptée, pareil, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, sur la réglementation de la tenue des députés et interdisant le port de signes religieux. Alors là, est-ce qu'on est sous une question d'exemplarité ou de fonctionnarisation des élus? Là, le débat est ouvert, mais il va de soi que même si ça concerne l'hémicycle, le fait d'interdire à un député ou une sénatrice de porter des signes religieux, ça a un impact sur ses choix personnels. On le sait encore, ces règles d'exemplarité vont par exemple entraîner un contrôle de la situation fiscale des déclarants. Le fait de bien déclarer ses impôts, ça relève de la vie privée. Et l'idée d'assujettir l'accès à des fonctions politiques au bon respect de la loi fiscale, eh bien, c'est la preuve que la vie privée peut avoir une conséquence sur l'exercice des mandats et fonctions politiques. Plus récemment, la loi du 15 septembre 2017, qui a, à la suite de l'affaire Fillon, interdit les emplois familiaux pour certaines fonctions, c'est là encore une législation qui part d'un vice, on va considérer, même si ce vice est très discutable, qui est de savoir si on peut accorder un travail à un de ses proches dans des fonctions politiques. On a considéré que c'était une forme de népotisme, donc ça a été interdit, mais c'est très débattu. Là encore, ça montre les liens entre vie privée et exemplarité. Bon, ces liens existent, et c'est ce que j'aimerais voir dans un dernier temps. Je pense que toutes ces règles peuvent paraître, lorsqu'on les cite à la suite comme ça, importantes, mais il serait excessif d'affirmer, comme c'est le cas de certains auteurs, que on exige aujourd'hui que les gouvernements soient irréprochables. Alors d'abord parce que déclarer ses impôts, est-ce que c'est être irréprochable? Là, c'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas. Mais surtout parce que la part du droit dans l'exemplarité est en réalité assez faible. La part du droit dans la moralisation de la vie privée des gouvernants est assez faible. Je pense que la moralisation de la vie politique, elle est avant tout, ça a très bien été écrit par Yves Poirmer dans un article que je vous conseille sur les bonnes mœurs et les hommes politiques, elle est avant tout le produit d'une construction sociale. Construction sociale, qui est l'œuvre des hommes et des femmes politiques, des journalistes, des écrivains, des juges, qui vont stigmatiser des comportements déviants. Et les hommes politiques eux-mêmes, hein, il suffit de lire ou relire des ouvrages d'André Tardieu sous la Troisième République ou de Michel Debré sous la Quatrième République, où on voit ces critiques de la classe politique à l'aune notamment de ce que ces auteurs considéraient comme des travers privés. Et de nos jours, à mon sens, la morale non juridique est beaucoup plus forte que la morale juridique. Alors cette morale, elle est différente. D'abord, elle n'est pas absolue parce qu'elle évolue en fonction des époques, cette morale non juridicisée. Sous la Troisième République, par exemple, il était inconcevable qu'un homme politique aspirant aux plus hautes fonctions ne soit pas marié. Évidemment, les choses ont bien changé, comme l'ont montré les vies privées de certains de nos présidents. Le passage de l'impunité la plus totale à la mise au pilori des hommes politiques soupçonnés d'harcèlement ou d'agression sexuelle envers des femmes montre bien qu'il y a une évolution de cette morale privée. Cette morale privée, on voit aussi, enfin cette morale non juridique, pardon, on voit aussi qu'elle n'est pas absolue. Il y a un cas qui intéresse beaucoup les constitutionnalistes, c'est ce qu'on a appelé la jurisprudence Bérégovoy-Balladur, qui, alors là, est un très bel exemple de la façon dont le privé peut avoir un impact sur l'exercice de fonctions politiques, puisque l'idée c'était qu'un homme politique, un ministre, mis en examen, quel que soit le motif de sa mise en examen, soit contraint de démissionner. Alors, il ne s'agit pas d'une règle juridique, c'était une morale, on va dire, non juridique, politico-médiatique, qui n'a pas été appliquée dans tous les cas de figure. Il y a deux cas à ce jour, si je ne me trompe pas, on va dire de dérogation ou d'oubli. Brice Hortefeux sous Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas démissionné alors qu'il avait été mis en examen et alors même qu'il avait été condamné en première instance. Et plus proche de nous, le cas d'Éric Dupond-Moretti, mis en examen, qui n'a pas démissionné. Bon, cette morale, elle est évolutive, elle est à géométrie variable. Donc l'exemplarité, même si elle entend se limiter à l'exercice des fonctions politiques, à mon sens, elle ne peut que déborder sur la vie privée. Là encore, gardez à l'esprit que la vie privée, ce n'est pas seulement le fait de garder des informations cachées, c'est aussi de faire des choix personnels. Alors c'est peut-être lié à la nature duale des gouvernants qui sont à la fois des personnages privés, mais aussi des personnages publics. À mon avis, ça confirme surtout la difficulté qu'il y a à penser la vie privée comme distincte de la vie publique. Donc, je pense qu'il faut revoir un peu nos façons de penser, qui sont, là encore, je l'ai dit, trop marquées par une culture civiliste qui se justifie tout à fait, d'ailleurs, dans les fonctions du juge judiciaire, et que pour le droit constitutionnel, il faut peut-être revoir nos cadres de pensée. Il est impossible, je crois, de distinguer totalement le privé et le public, et la thématique de la personnalisation du pouvoir, qu'on connaît bien en France, nous l'a montré à plusieurs égards. Je pense que la question, elle est pas tant de savoir si on peut écarter la vie privée des politiques d'exemplarité, mais se demander qui, finalement, va définir les standards éthiques qu'on va imposer aux gouvernants. Qui va les contrôler? Est-ce que ça va être les gouvernants eux-mêmes, ou bien est-ce que ça va être l'opinion publique, aussi nébuleux que puisse être cette dénomination, les médias et d'autres entités qui n'ont pas la même légitimité que les parlementaires. Je vous remercie.